rencontre spirituelle aujourd'hui sera question du pape Pie XII. Un pape outragé, un pape dont on a dit n'importe quoi, et qui est un très grand pape. Je vous en ai déjà parlé quelques fois. Aujourd'hui, je reviendrai d'une autre façon à son sujet, pour en montrer la grandeur et la beauté malgré certaines choses. Il est mort en 1958, il avait été élu pape en 1939. C'était un grand humaniste que le pape Pie XII. Un très grand humaniste. Un homme qui a ouvert l'Église aux dimensions de tout l'univers en nommant des cardinaux de nationalités diverses, y compris le premier cardinal chinois. C'est un homme qui a ouvert son cœur à l'humanité entière et qui a été préoccupé par les problèmes de l'humanité dans tous ses détails. Et qui a été extrêmement affecté par le problème de la persécution de certains peuples comme les Juifs, les Tziganes, et aussi tant de Polonais qui ont été tués dans cette guerre, mais quantité de gens, des millions de gens. Il a été le sauveur au Vatican même de milliers de Juifs, au point que le grand rabbin de Rome, le rabbin Zolli, est venu le voir après la guerre et s'est jeté à ses pieds. Il lui a demandé de l'accueillir au sein de l'Église catholique. Il s'est fait baptiser sous le nom de Eugène, le prénom même du pape Eugène Pacelli. Il est devenu le père Eugène Zolli, ce grand rabbin. Tant de Juifs remarquables ont su reconnaître la grandeur de ce pape, sa bonté, y compris Einstein, qui n'a pas dit les moindres choses au sujet de ce grand pape. Ce grand pape est né à Rome en 1876. Eugenio Pacelli était, je crois, le deuxième fils du comte Pacelli, de la noblesse romaine qu'on appelle la noblesse noire, c'est-à-dire la noblesse rattachée au Vatican. Quand on voyait les gens de la noblesse autrefois au Vatican lors des grandes réceptions, ils portaient encore des costumes très traditionnels, portant ce qu'on appelle la fraise, c'est-à-dire ce grand collet blanc, plissé, magnifique. Je ne pense plus que ce soit porté aujourd'hui. Portait des costumes noirs et faisait partie de ce qu'on appelle la cour de cet homme, le pape, qui avait un pouvoir aussi, non seulement spirituel, mais temporel. Car il avait des états très grands, et c'était une déformation, à mon avis, du pouvoir du pape. Quoique beaucoup de gens en Italie étaient heureux d'appartenir aux grands états du Vatican, où ils se croyaient mieux traités et d'une façon plus pacifique que dans les États qui ne relevaient pas du Vatican, dit-on. Quand il a été élu à 63 ans, Eugenio Pacelli, le 2 mars 1939, il a été élu au troisième scrutin d'un conclave, c'est-à-dire d'une réunion des cardinaux du monde entier, et ce conclave a duré moins de 24 heures. C'est que déjà, on savait que ce serait lui qui succéderait au pape Pie XI, ce bibliothécaire, cet alpiniste, cet homme de grande dimension aussi, Pie XI, grand intellectuel. Il y avait une autre guerre mondiale qui s'annonçait en 1939. Vous savez que ça a été déclaré au début de septembre. Il a été élu le 2 mars. Il y avait aussi l'agressivité nazie qui était de plus en plus forte. Il connaissait les Allemands, il avait vécu en Allemagne pendant plusieurs années, ayant été nonce, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican. Il avait été nonce en Bavière, dans cette région très catholique de l'Allemagne. Et il représente pour le Collège des cardinaux, évidemment, un choix tout à fait prévisible. C'est lui, d'ailleurs, qui avait négocié le concordat avec l'Allemagne nazie. C'est lui qui a fait l'expérience dure, et peut-être même assez traumatisante, de la révolution communiste bolchévique, puisqu'il a vu sa nonciature atteinte par des balles perdues, avant de se retrouver devant un commando de soldats, de spartakistes furieux. Quand il a géré, si on peut dire, le conflit post-concordataire, il y avait un concordat, n'est-ce pas, avec le régime hitlérien, bien, c'était Eugenio Pacelli, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, était secrétaire d'État de Pie XI, c'est-à-dire son bras droit, si vous voulez. Il a fait preuve de fermeté vis-à-vis l'Allemagne, sans pour autant ignorer les faiblesses d'un certain catholicisme allemand face au nazisme. Vous savez, il est très facile pour nous de blâmer ceux qui ne se sont pas tenus debout devant le nazisme ou devant les grands pouvoirs dictatoriaux. Avez-vous vu ce qui est arrivé à notre ambassadeur, est-ce son nom Marc Perron, je ne sais pas, au Mexique, qui a osé dire à haute voix ce que tout le monde sait au sujet du grand pouvoir de la drogue au Mexique. Il a dit à haute voix combien le gouvernement mexicain est, pour ainsi dire, soumis aux grands trafiquants de drogue. Ça peut arriver ici un jour. Le pouvoir de la mafia effroyable, démoniaque dans le monde est tel que les gouvernements en arrivent à leur être soumis sous peine de mort. C'est comme ça. Et alors, cet homme honnête, cet ambassadeur intègre, a été rappelé immédiatement au Canada. Il doit se taire. Ça ne paie pas de parler dans certaines circonstances, sous les grandes dictatures. Et j'admire ceux qui ont parlé et qui se sont fait tuer. Je les admire au plus haut point. Mais c'est pas tout le monde qui a ce courage, c'est évident. L'aurions-nous, nous? Seuls se sont montrés perplexes envers la candidature du cardinal Eugenio Pacelli, certains cardinaux italiens qui résidaient à Rome, parce qu'ils auraient préféré une solution plus pastorale, plutôt que d'avoir un grand intellectuel, un grand savant, qui a écrit, c'est fabuleux, quand on voit tout ce que le pape Pie XII a abordé. J'ai même un livre ici, devant moi, Pie XII parle de santé mentale et de psychologie. C'est publié par le père André Godin, qui n'est pas le moindre, je l'avais déjà interviewé à Rencontre à la télévision, un bonhomme jésuite remarquable. C'est dans les cahiers de l'humanité, dans les cahiers de psychologie religieuse. Pie XII parle de santé mentale et de psychologie. Il a écrit sur toutes les questions. C'est absolument hallucinant quand on se met à parcourir tout ce qu'il a écrit. Absolument fantastique. Et alors, certains cardinaux voulaient une solution plutôt pastorale comme celle qui aurait pu être incarnée par l'archevêque de Florence. C'était le cardinal Eliade Dalla Costa. Eugène Pacelli est donc né, lui, dans une famille. Comme je vous ai dit, la noblesse noire romaine, c'était bien différent. Et ça faisait plus de 200 ans qu'un Romain, quelqu'un qui est né à Rome, n'a pas occupé le siège de l'évêque de Rome, de pape. Et jusqu'à son élection, ben, il a passé sa vie au service, comme je vous ai dit, de la secrétaire d'État, puis une nonciature, des choses comme ça, c'est-à-dire d'ambassadeur. Son règne commence un an après le fameux Anschluss, c'est le rattachement forcé de l'Autriche qui parle allemand à l'Allemagne qui parle évidemment l'allemand. On a voulu faire de l'Autriche non pas un pays séparatiste, mais un pays uni, une province de l'Allemagne. Ce qui ne plaît pas du tout aux Autrichiens qui sont à peu près aussi nombreux que nous ici au Québec. C'était 6 mois aussi après Munich, une semaine après la destruction de la Tchécoslovaquie, tout arrivait, c'était terrible, et à peine élu, Pie XII entreprend des démarches pour empêcher une guerre qui semble déjà décidée. Et les 4 cardinaux allemands, venus à Rome pour le conclave, prévoient, eux, un durcissement du régime nazi de Hitler. Ils prévoient aussi le déclenchement d'une action résolument hostile à l'Église, car ils savent, Ils sont au courant, ils sont mis au courant, souvent, les cardinaux, comme ça, de ce qui se trame dans les bureaux secrets de Hitler. C'est l'abolition de l'Église catholique. Dans les mois qui suivent, le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape, le Vatican, noue des contacts avec les puissances européennes pour tenter une médiation après les accords de Munich. Mais le pacte, il y a un pacte, vous vous souvenez, le pacte germano-soviétique, signé par Molotov pour les Russes et Ribbentrop pour les Allemands, exclut toute possibilité de sauver la paix. Et dès lors, le Vatican se consacre plutôt à une autre tâche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout tenter pour maintenir l'Italie, où se situe évidemment le Vatican, à Rome, en dehors du conflit, en faisant pression sur Mussolini, le dictateur de l'Italie, et sur les milieux italiens les plus attachés à la paix. Et Pie XII déclare, quelques jours avant la guerre, le 24 août 1939, « Rien n'est perdu avec la paix. Non, rien n'est perdu avec la paix, mais tout peut être perdu avec la guerre. » Et le 1er septembre, bien là, ça y est, les troupes du Reich allemand envahissent la Pologne, c'est le début de la guerre. Le pape prouve qu'il sait bien quels sont ses devoirs au milieu de cet incendie épouvantable qui dévaste toute l'humanité. Il dit « Il y a des circonstances où le pape ne peut pas se taire. » Mais il ajoute aussi « On ne voit pas ce qu'il est encore possible de faire par les voies diplomatiques. » Il y a chez lui un souci de discrétion qui, on pourrait dire, inhibe son esprit. Ça s'accompagne chez lui d'une grande confiance quand même dans les moyens diplomatiques. Et c'est ainsi qu'il écrit aux évêques allemands, c'est très important ce qu'il dit, « Quand le pape voudrait crier haut et fort, le silence, malheureusement, lui est parfois imposé. Quand il voudrait agir et aider, il lui faut se contenter de l'attente patiente. » Et ce sentiment d'impuissance, l'angoisse de ne pas pouvoir empêcher les excès de la guerre, ses cruautés, puis ses crimes, à commencer par l'extermination des Juifs, sont le pendant de ce qu'on pourrait dire cet isolement réel, diplomatique, là, du Saint-Siège. Il doit avant tout être envisagé comme une question de structure, si on peut dire aussi. Mais plus que ça, le système politico-ecclésiastique, si on peut dire, se trouve concrètement empêché de prononcer la parole prophétique à cause de son propre pouvoir. Il peut pas parler comme les prophètes de l'Ancien Testament, puis il peut pas parler comme Sainte Brigitte dont je vous ai parlé hier, ou comme Sainte Catherine de Sienne. Il peut pas. C'est pas possible. En 1943, durant la guerre, une note du délégué apostolique en Turquie, Angelo Roncalli, qui va devenir Jean XXIII, signale à la secrétaire d'État au Vatican l'existence des camps d'extermination nazis. Et Angelo Roncalli balaie tous les doutes sur le caractère délibéré du silence pontifical au sujet de la Shoah. La preuve, à contrario, en est fournie par le fait que lorsque le Vatican ne se sent pas trop entravé par les liens politiques qui est concordataire, puis les menaces, il accepte de devenir, à un niveau évidemment non officiel, un espace protégé pour les Juifs persécutés, comme cela arrive par exemple à Rome. Et c'est à Rome que seront sauvés, au Vatican même, des milliers, des milliers, des milliers de Juifs. Ce sera une aventure fantastique que le pape Pie XII va faire et exercer. Et n'oubliez pas que si le pape avait parlé contre Hitler, Hitler l'avait bien fait entendre au pape qu'il supprimerait d'un seul coup tout le clergé catholique d'Allemagne, de Pologne et d'ailleurs. Il les raflerait tous et les enverrait dans des camps d'extermination. Tout le clergé. C'est des menaces tellement tragiques qu'il est bien embêtant pour un pape d'oser parler plutôt que d'agir par en dessous et de faire des choses qui soient plus profitables et finalement plus efficaces. Le pape XII s'est beaucoup intéressé aux missions, à l'universalisation de l'Église. Le pape XII s'est beaucoup intéressé aussi à la vie intellectuelle, à la vie culturelle. Et dans un très beau livre édité en 1949 avec de magnifiques illustrations provenant de la bibliothèque du Vatican, on a demandé à Paul Claudel de préfacer un livre de prières, édité de façon plutôt luxueuse, et prières de sa sainteté Pie XII. Alors Paul Claudel, de l'Académie française, a écrit un très bel hommage à Pie XII. Je vous le lis, c'est un petit peu long, ça prendra peut-être le prochain quart d'heure ou les prochaines 10 minutes. Mais c'est très beau car ça sort du cœur d'un des grands écrivains de ce siècle, dont on n'entend pas suffisamment parler à mon avis. Jésus-Christ, en montant au ciel, a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins, et en effet, regardez, il est là. Il continue avec nous dans la Sainte Eucharistie, mais il continue aussi à Rome, en chair et en os. C'est Saint-Pierre et ses 250 successeurs jusqu'à Pie XII, dont nous regardons aujourd'hui la noble figure avec affection. Nous ne sommes pas comme les malheureux protestants. Nous avons un Père à qui l'on peut poser des questions et qui nous répond avec des lèvres lumineuses. C'est vrai, tout ce qu'il dit, et l'on s'en revient bien tranquille et rassuré. Un Père, pas seulement un Père, une source de pères, une source inépuisable de prêtres et de sacrements. Il y en a pour tout le monde. Quand on a des enfants, il y a là un père pour les recevoir dans ses bras, pour les laver avec de l'eau et pour les saler avec du sel. Quand on a faim, il y a quelqu'un pour vous mettre le bon Dieu dans la bouche. Quand on se marie et qu'on se dit oui l'un à l'autre, il y a là quelqu'un pour écouter. Quand on a fait quelque chose de vilain, il y a quelqu'un pour vous gronder, pour vous faire une petite croix sur le front. Et quand on a envie de mourir, il y a quelqu'un pour vous débarrasser de tous ces liens cruels qui voudraient vous retenir. Va-t'en librement, âme chrétienne, va, mon enfant, n'aie pas peur, va-t'en, mon enfant, va-t'en, mon petit enfant. Et pour cela, c'est le pape. C'est le pape de la part de Dieu à notre service qui est mêlé à notre vie, à notre respiration. Ou plutôt, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu en la personne du pape qui opère comme son Père opère, ainsi qu'il est écrit jusqu'à ce jour. Écoutons-le, qui nous dit avec une profonde humilité, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Tout ce que je vous demande est de me laisser travailler de mon métier à votre service. Est-ce qu'on ne devrait pas être heureux d'avoir un père comme celui-là? Un père toute la journée au service de ses enfants. Les anciens juifs avaient le propitiatoire et l'éphode que le grand prêtre consultait de temps en temps et qui lui répondait aussi de temps en temps. Mais nous avons un prêtre au-dessus de cet immense troupeau tonsuré qu'il a créé d'un souffle de sa bouche qui ne fait qu'un et qui respire à ses lèvres même l'Esprit-Saint pour nous le communiquer. Ah, le pape! L'usage à Rome autrefois était de lui baiser les pieds, mais c'est lui maintenant qui baise les nôtres. Mais aussi, avons-nous réfléchi que tout de même, ce n'est qu'un homme? Avons-nous réfléchi qu'il est tout seul, et que c'est nous qui lui sommes sur le dos? Pas seulement nous qui lui sommes sur le dos, mais le monde entier qui lui est sur le dos. Pas seulement nous, les tels quels. Hélas, mon Dieu, les tels quels. Mais les païens, les schismatiques, les juifs et les malheureux protestants. Ah oui, malheureux, on peut le dire. Malheureux au-delà de l'expression, j'ai vu jadis un jeune prêtre qui sanglotait tout seul, qui sanglotait de tout son cœur au milieu de son église déserte. Mais lui aussi, le vicaire de Jésus-Christ, le curé de l'univers, est-ce que lui aussi, il ne doit pas lui arriver de pleurer, de verser des larmes de sang, de heurter de son front les marches sacrées de l'autel écuménique? On est si méchant autour de lui. Et surtout, on est si sourd, si affreusement distrait, si bête, si bête, si épouvantablement sourd. La lampe rouge qui brûle devant le tabernacle, c'est le pape qui est là, c'est Jésus-Christ dans le pape qui est là, tout seul sous le regard de Dieu, le pape qui est là, qui veille, qui écoute, qui regarde, qui comprend, qui travaille et qui prie. Et voici quelques-unes de ses prières. Il y en a 22 dans ce livre. Il y en a 3 qui sont en français, l'une d'elles adressée à la Vierge de Lourdes. Mario Escobar a eu l'idée de les réunir sans doute pour que nous les répétions. Et c'est le vieux poète appelé Paul Claudel qu'on est allé chercher pour les présenter au public. Ah, ces prières! Ce sont de ces prières que l'on fait les yeux fermés et les lèvres n'y ont pas la place principale. Quand on a un ami très cher, un ami, sans qu'on le voie, qui partage votre table et votre chambre, et quand je lis la messe, il y a ces deux anges à ma droite et à ma gauche qui me rappellent sa présence. Quand on a un ami si cher et si intime, on se comprend à mi-voix et à mi-mot. Et Eugenio Pacelli, Pie XII, n'a jamais été si éloigné de Dieu qu'il ait besoin de crier fort pour se faire entendre. Nous ne sommes pas dans l'immense Saint-Pierre, au Vatican, et il n'y a pas, au-dessus de nous, dans la coupole des trompettes d'argent prêtes à nous répondre. Nous sommes dans un oratoire. Il y a là un homme tout seul, mais dont on peut dire avec plus de justice encore que du grand prêtre de l'ancienne loi qu'il est revêtu du monde entier. Nous autres, simples fidèles, le cercle de notre impénétration ne s'étend pas très loin. Nous prions pour nos proches, quelques figures plus ou moins vaguement éclairées. Il n'y a que le jour du Vendredi Saint que nous sommes officiellement invités à la supplication de toute l'Église. Mais pour le pape, c'est tous les jours le Vendredi Saint. C'est tous les jours qu'il est associé aux besoins, aux souffrances, aux nécessités, disons même aux péchés d'une totalité à laquelle aucun être humain n'échappe. C'est à chaque moment qu'il est conscient de cette Église avec lui dont il est la forme. C'est à chaque moment que, crucifié sur l'univers, il l'expose à Dieu. Ce n'est pas trop que tout l'univers pour lui aider à expliquer à Dieu ce que chacun de nous essaie individuellement de balbutier. C'était un texte de Paul Claudel. Et parmi les prières, je vous en ai choisi quelques-unes, en voici l'une au début. Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ton Fils dans le monde, c'est les prières de Pie XII. Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ton Fils dans le monde, afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Incline ton regard bienveillant sur ton Église et sur tous ceux qui ont l'ineffable félicité d'être ses fils. Mais regarde aussi avec miséricorde ceux qui, dévoyés par l'erreur, entravés par les passions, pressés par les soucis, les angoisses, les illusions et les séductions du monde, ont perdu le sentier qui conduit à cette indéfectible maîtresse de vérité, gardienne de tes saintes lois, dispensatrice de tes grâces, dépositaire de tes mystères. Considère les innombrables frères et sœurs dont les ancêtres furent amenés par les messagers de la foi à vivre en amitié avec Jésus et conduits au cœur maternel de l'Église, une sainte apostolique, mais qui, plus tard, au jour de troubles et de malheurs, s'éloignèrent de l'unité pour laquelle te supplia ton divin Fils. Oh, considère le nombre croissant de ceux qui, trompés par de faux prophètes, se sont détournés de toi, source de toute vérité et de tout bien, et qui menacent de retomber dans ces ténèbres d'où la lumière de la croix a tiré leur père. rude et aride est la voie que sur la terre doit parcourir ton Église. Dur et amer est le chemin de tes fidèles parmi les périls et les embûches qui de toutes parts les environnent. Ton Saint-Esprit, qui fortifia les apôtres dans leur pérégrination à travers un monde ennemi, qui dans l'arène transforma les confesseurs du Christ, de faibles créatures en héros, qui soutint les messagers de la croix dans leurs fatigues et leurs épreuves inouïes, qui fut aux côtés d'Augustin de Canterbury dans son voyage en Angleterre, de Bède le Vénérable dans le silence de sa cellule, de Boniface dans son martyre, qui bénit leurs entreprises et leur fit récolter les fruits précieux de leur labeur par d'innombrables âmes conquises au Christ. Que cet esprit de consolation, de force, de sagesse et de joie descendent de nos jours sur l'Église qui combat dans les luttes multiples et pénibles, pour préserver, Seigneur, la pureté de la vérité, l'intégrité, l'unité, la liberté de l'apostolat, l'accomplissement de la mission qui lui a confié son divin fondateur. Envoie de nouveau sur terre l'ange qui brisa les chaînes de pierre afin qu'il rompe les fers, souvent invisibles, mais d'autant plus durs, par lesquels l'incrédulité, l'erreur et les puissances qui leur sont alliées cherchent à enchaîner ton Église dans la prédication de l'Évangile. Oh oui, unis à l'Éternel bon pasteur, nous te supplions, ô Seigneur notre Père, donne au peuple l'union et la paix dans la vérité, la justice, le respect du droit et la charité fraternelle. Amen. À la fin de l'année 1939, il a été élu le 2 mars 1939, malgré l'absence de relations diplomatiques avec les États-Unis, le président Roosevelt a nommé, près le Saint-Siège, un représentant personnel, Myron Taylor, dont on peut dire, peut-être, là, qu'il a assuré pendant la guerre la seule ouverture sur la réalité internationale dont disposait encore le Vatican, qui était vraiment fermé en Italie, par ce pays qui était allié de l'Allemagne. Mais quand le président des États-Unis décide de faire bombarder Rome, le coup est rude à encaisser pour le pape. Le pape prend alors conscience de la distance qui sépare tous les problèmes moraux politiques, là. Que ces messages radiophoniques de Noël ne cessent de désigner à l'horizon du monde, là, tous ces problèmes. Puis la violence qui s'exerce de plus en plus dans le monde. Il est terrifié, et Pie XII est parmi les premiers à saisir qu'à l'époque moderne, aucune forme de sacré ne pourra se tailler un espace suffisant et se conserver sans être renversé. Si l'on ne donne pas la priorité au salut de l'homme comme bien suprême, c'est le salut de l'homme qui doit primer partout, en tout et toujours. Alors, poussé par un profond mouvement de compassion, quand Rome est bombardée, Pie XII sort à l'improviste du Vatican, ce qui ne se pratiquait pas du tout à l'époque. Le pape ne sortait jamais depuis la fin du siècle dernier. Alors, il est sorti après le bombardement qui a eu lieu le matin du 24 juillet 1943. Pour être présent parmi les ruines du quartier romain de San Lorenzo. Je me souviens, j'ai vu en 1950 cette basilique en partie détruite. Très belle basilique. Avec les cratères issus d'une violence qui marque symboliquement la fin de ce qu'on pourrait dire être l'âge sacré provoqué par l'Occident lui-même. Au cœur de sa ville la plus sainte. Et les gens se pressent autour du pape, il est vêtu de blanc, évidemment. Il est grand, il est muet. Parmi des tas de décombres, des centaines de visages émaciés, effarés, des Romains. Ils sont épuisés. Ils le regardent d'un air désespéré, et le pape ouvre grand les bras en forme de croix dans ce geste qui lui était si naturel. Vous avez déjà vu peut-être des photos de lui, les bras tout étendus, le regard dressé vers le ciel. comme un lien entre la terre et le ciel. Il lève la tête, justement, vers ce ciel de plomb, devenu tout à coup sinistre et violent. C'est une prière de pitié qu'il adresse au ciel. Ça semble faire écho, vous savez, à cette protestation si belle dans la Bible, la protestation de Job. Il a écrit une très belle prière, Pie XII, qui nous fait penser à tout ça. Jésus, roi des siècles, immortel et invisible, à vous soit l'honneur et la gloire de tous les siècles, parce que de tous les siècles vous êtes le centre. En vous, rédempteur de l'humanité déchue, le passé ne demeure-t-il point fixé par l'œil des prophètes? La plénitude des temps ne réside-t-elle pas en vous alors que nous vous contemplons? Géant descendu du ciel dans la grande geste du Golgotha, premier-né des morts ressuscité montant au ciel en triomphateur. Voici la suite des siècles qui se réclament de vous. Voici qu'à la parole des témoins de vos prodiges, sous la tutelle de Pierre, toujours vivant dans ses successeurs infaillibles, voici qu'en vous se concentre le regard de la foi, l'audace de l'espérance et le frémissement de l'amour. Oui, les siècles pour vous souffrent et combattent. Pour vous, ils civilisent les peuplades sauvages. Pour vous, ils créent des refuges de paix et de sainteté. Ils allument des phares de sagesse, édifie des voûtes et des pinacles vertigineux, ce sont les cathédrales, les grandes églises, hein, pour vous, édifie, ils allument des phares de sagesse, ils édifient des voûtes et des pinacles vertigineux jusqu'à effleurer les marches de votre trône, arcs triomphaux sur le chemin de votre croissante victoire, qui, aux côtés de votre vicaire, le pape, accompagne la cohorte des martyrs, les cœurs des vierges, les phalanges des docteurs, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sera docteur dans quelques jours, l'armée des familles religieuses, toutes ces congrégations, tous ces ordres, la multitude des croyants, c'est nous, ça. Il continue en disant, triomphez, triomphez, ô Jésus, que votre règne arrive et progresse. Que votre empire resplendisse sur la terre, son empire, c'est l'empire de l'amour, c'est l'empire du cœur, c'est l'empire du service, c'est l'empire de la compassion, c'est l'empire qu'a fait régner justement Mère Teresa, c'est ça l'empire du Christ. Que votre empire resplendisse sur la terre, mais mieux connu, plus aimé, plus beau, plus puissant, de même qu'est infini le pouvoir de votre sang divin répandu pour la rédemption, non de nous seuls, mais du monde entier. Combien de brebis de votre bergerie, pour lesquelles vous avez prié le Père, sont encore errantes loin de l'unique pasteur, laissées par vous comme le guide et le défenseur des pâturages de vie. Faites que sous sa main, tous se réunissent autour de vous, divin pasteur de nos âmes. Et nous, fils de votre victoire, qui après 19 siècles ou 20 siècles, recueillons le fruit de la rédemption que vous avez accomplie sur le Golgotha, que pouvons-nous faire sinon vous adorer, vous remercier, nous prosterner devant votre croix, pour que sur notre tête tombe plus abondamment votre sang, notre force et notre salut. Son sang, je vous le rappelle, je vous le redis au Christ de vous ennuyer, c'est son âme, d'après la conception juive de l'Ancien Testament. Le corps et l'âme, le corps et le sang. Alors, pour que sur notre tête tombe plus abondamment votre sang, votre âme si chargé à l'infini d'amour, d'un amour qui est à la dimension de l'univers et qui dépasse tout. Pour que sur notre tête tombe plus abondamment votre sang, notre force et notre salut. C'est dans son sang qu'on trouve notre force et notre salut. C'est dans son âme, dans son amour qu'on trouve notre force et notre salut. C'est dans son amour qu'on peut aimer. Et le pape continue en disant, oui, ô Seigneur Jésus, donnez-nous une étincelle de cette ardeur et de cette force qui furent la grandeur de vos saints et de vos saintes. De cette vertu, de cette patience, de ce courage dans les adversités qui nous rendront plus semblables à vous. Ferons de nous comme vos images, car votre ressemblance est le sceau de notre éternelle félicité. On ne peut être heureux que si on ressemble à Dieu. Nous avons été d'ailleurs créés à son image et à sa ressemblance, et c'est dans les plus anciens textes de la Bible. Y pensons-nous suffisamment? Y pensons-nous suffisamment? Oui, ô Seigneur Jésus, donnez-nous de cette vertu, de cette patience, de ce courage dans les adversités qui nous rendront plus semblables à vous. Ferons de nous comme vos images, car votre ressemblance est le sceau de notre éternelle félicité. Ô Rédempteur divin, continue le pape et termine de cette façon, ô Rédempteur divin, libérez-nous de notre corps de mort. Libérez votre épouse, l'Église, des chaînes dont l'entrave ses ennemis. Allumez en tous ceux qui croient en vous cet amour du salut de leurs frères, qui fait ici-bas un seul cœur et une seule âme, jusqu'à ce que tous, soutenus par votre bras tout-puissant, nous nous élevions au-delà des orages du monde, par-delà les obscurités de la foi, bienheureux éternellement, dans la contemplation ineffable de votre triomphe éternel. Ainsi soit-il. Ces prières grandioses de Pie XII n'ont guère d'égal. On les lit, on en est bouleversé. En 1943, le pape Pie XII publie une encyclique, Mystici Corporis. Le corps mystique. L'Église est le corps mystique du Christ, nous sommes membres de ce corps. Et l'encyclique réhabilite dans une perspective tout à fait universaliste les éléments, comme on dit en langage théologique, les éléments sacramentels d'une ecclésiologie encore fortement conditionnée par une idéologie sociétaire et juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce discours qu'il prononce au consistoire, un peu plus tard, il explique bien que nous sommes tous membres, nous sommes tous conditionnés par une vie spirituelle, intérieure, profonde, qui fait de nous d'autres Christ, des membres du corps du Christ, et qu'il y a une puissance et une influence de l'Église pour la vraie restauration du monde, si on veut vraiment être des chrétiens à plein dans le corps mystique. Restaurer le monde, le reconstruire, le remettre debout, debout devant Dieu, avec des cœurs palpitants d'amour. Pie XII exalte, en somme, aussi la supranationalité de l'Église. Elle est universelle. Elle n'est pas noire, jaune, blanche, rouge ou verte. Elle est de tous les peuples et de toutes les nations et de toutes les cultures. Il la donne à voir comme modèle de l'ordre international et de toute façon comme facteur de l'évolution. L'Église est facteur d'évolution puis d'assomption de l'humanité. L'Église, pour lui, ne se présente plus comme une orgueilleuse forteresse là, qui serait détentrice de la vérité puis qui casse la nuque des gens. Pas du tout. Elle, l'Église, n'a pas à agir non plus de cette façon sur le plan temporel. L'Église doit être une éducatrice souple des peuples et des hommes. Il y a place pour la miséricorde, le pardon et la compréhension. Et nous sommes tous une bande, finalement, de pécheurs qui avançons à tâtons au sein de cette Église, vers la vie éternelle. Nous ne pouvons ni renoncer à notre mission de former l'homme complet, parce que nous ne sommes pas confinés dans des temples. Dans les temples, nous sommes là pour glorifier Dieu et retrouver des forces. Et l'approche des masses et l'utilisation des techniques de communication qui surgissent sous son règne se superposent à tout un processus qui a longtemps été dans l'Église, l'imprimé et des choses comme ça, mais lui, ce pape, ne dort pour ainsi dire jamais, il veille. Il fait de la gymnastique chaque matin, il se rase avec un rasoir électrique, ce qui fait sensation, chose petite, chose anodine. Il tape lui-même sur une machine à écrire blanche ses célèbres discours, puis il écoute des disques de son musicien préféré, Beethoven. Il a un grand ami, c'est un canari, qui s'appelle Gretel. Il lui pince le bec, il l'embrasse. C'est le seul petit être qui partage sa solitude dans ses appartements privés. Mais le mystère de Pie XII n'est autre que le mystère même de l'Esprit-Saint. C'est un homme habité par l'Esprit-Saint, et c'est un très grand pape. Le pape Pie XII s'est prononcé sur bien des questions, je vous l'ai dit tout à l'heure, puis il n'ose pas formuler une condamnation explicite du colonialisme à son époque. Il craint que une espèce de poussée de liberté des peuples du tiers-monde ne les entraîne à se jeter dans les bras du communisme. Mais Pie XII s'exprime en faveur des processus d'autonomie des peuples, puis des droits à l'indépendance des jeunes nations. Il n'hésite pas non plus à critiquer le rôle des puissances coloniales qui écrasent les peuples du tiers-monde en particulier, et de toutes les choses qui se passent et qui sont abominables et qui se passent encore aujourd'hui. C'est tellement terrible ce qui se passe, le travail des jeunes enfants en particulier, abominable. Le pape est un défenseur de la justice et des vraies choses. À la fin du pontificat de Pie XII, son langage devient assez pessimiste. Le pape est de plus en plus isolé au sein même de l'Église et par rapport à la réalité, on dirait. Il n'est plus entouré que de quelques confidents, dont le recteur de l'Institut biblique, le fameux jésuite Augustin Béat, qui va devenir le cardinal Béat, son confesseur. Puis il y a sa secrétaire, l'influente sœur Pascalina Lehnert. Le pape meurt donc le 9 octobre 1958 dans sa villa de Castel Gandolfo. Êtes-vous déjà allé à Castel Gandolfo? C'est magnifique, c'est auprès d'un lac qui est dans un volcan éteint, on dirait. Et c'est un très, très jolie petite ville. Et il a une semaine d'agonie. C'est une mort solitaire, comme celle d'un monarque presque. C'est déjà annoncé en gros caractères par quelques journaux romains avant qu'elle se produise. Mais les paparazzi sont déjà là. Ça commence. C'est une mort marquée par les photos blasphématoires de l'agonie. Car le pape a été trahi par son médecin qui les a vendus aux plus offrants sur le marché international des magazines illustrés. Et après 19 ans de règne, c'est toute une époque qui s'achève. Et non pas seulement l'existence terrestre d'un pontife romain. Non, c'est un grand homme, à mon avis un saint. J'ai toujours eu une très grande estime pour ce pape, qui a écrit de si belles prières, et en voici une qui est magnifique. Je vous la lis, je ne sais plus laquelle choisir, tellement il y en a de belles. C'est une prière à Jésus. Jésus qui, dans la tendresse de ton cœur divin, a lancé le premier cri de compassion en faveur de la pauvre humanité, avide d'être guidé vers la lumière et la vie à travers les rudes sentiers du monde. Ô Seigneur, qui fais de tes anges et de tes ministres des prêtres, qui fais de tes anges et de tes ministres des flammes de feu, à ce peuple qui est et veut être tien, envoie de nombreux prêtres et revêt-les de justice, afin que tes saints exultent C'est sûr que quand on a de saints prêtres, nous exultons, nous, les laïcs. Et quand un prêtre, dans son impatience, nous rabroue, c'est pas facile, il faut prier. C'est dur. Toi qui connais tous les cœurs, désigne les élus à qui tu veux confier ce sublime ministère de vérité et d'amour. Illumine leur esprit, afin qu'ils connaissent l'inappréciable grâce de ton appel divin. Fortifie leur volonté, afin qu'ils ne se laissent pas vaincre par la mollesse et les plaisirs, qu'ils ne cèdent pas au relâchement des vaines jouissances, qu'ils ne s'attardent pas dans les plaines basses parmi les brouillards de la cupidité humaine, qu'ils ne tremblent point devant le sacrifice, mais que, déployant leurs ailes, ils volent comme l'aigle royal vers les altitudes sereines et fulgurantes de ton sacerdoce éternel. Il a une grande conception du sacerdoce et des prêtres. Quel amour pour les prêtres! Et dans sa prière à Jésus, il termine en disant « Fais connaître à leurs parents combien il est grand et incomparablement beau de te donner leur fils. Accorde-leur la force de vaincre les attachements et les intérêts contraires. Inspire aux âmes généreuses le désir efficace de secourir d'une main bienfaisante tes élus, tes prêtres, dont la pauvreté serait un obstacle à suivre ton appel. Donne à leurs éducateurs les lumières nécessaires pour cultiver dans ces cœurs juvéniles la fleur délicate de la vocation, jusqu'au jour où ils pourront, ardents et purs, monter à ton saint autel. Alors, qu'ils soient, ô Jésus, de vrais anges pour ton peuple, des anges dans le sens des messagers, anges de pureté, qui préfèrent ton divin amour, à tout autre amour humain, même tendre et saint, anges de charité qui renoncent aux douceurs de la famille terrestre, pour s'en créer une autre, plus vaste, dont ils seront les pères et les pasteurs, et dont les petits, les malheureux, les souffrants, les délaissés deviendront l'objet de leur prédilection. C'est vrai, c'est ça le sacerdoce et le célibat sacerdotal. Ça leur permet d'être les pères et les pasteurs, et dont les petits, les malheureux, les souffrants, les délaissés deviendront l'objet de leur prédilection. Anges de lumière qui font resplendir la foi en toi, comme l'étoile du matin, dans l'intelligence des hommes. Ange de sacrifice, qui comme une flamme d'holocauste, se consume pour le bien de leurs frères. Ange de conseil et de réconfort, au confessionnal en particulier, qui les console dans la douleur, les soutienne dans les luttes, et leur désigne aux heures d'angoisse et de doute la voie lumineuse de la vertu et du devoir. Ange de grâce, les prêtres, qui purifie les âmes. Ange de sacrifice, qui comme une flamme d'holocauste, se consume pour le bien de leurs frères. Ange de conseil et de réconfort, au confessionnal en particulier, qui les console dans la douleur, les soutienne dans les luttes, et leur désigne aux heures d'angoisse et de doute la voie lumineuse de la vertu et du devoir. Ange de grâce, les prêtres, qui purifie les âmes, les attire à toi, et te les unissent en leur distribuant le pain de vie. Ange de paix qui, à l'heure du dernier souffle, les amène à l'inexprimable suavité du désir d'union avec toi, et, ravi dans l'extase de ton embrassement divin, leur ouvre les portes du ciel, où tu es lumière et joie infinie des cœurs dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cette prière pour les prêtres est une des plus belles prières que j'ai lues de ma vie pour prier pour nos prêtres. Prière de Pie XII, parue chez Plon il y a très longtemps. Oh mon Dieu, il y a un temps fou. J'avais payé ça, une centaine de dollars à Paris, il y a des illustrations magnifiques. C'est un exemplaire hors commerce. C'est des exemplaires de luxe. Ça ne se trouve malheureusement pas, mais ce sont des bijoux qu'on a dans sa bibliothèque et que l'on ouvre à l'occasion pour nous aider à prier en beauté. Avec ce grand pape qu'est Pie XII, Eugenio Pacelli, qui a régné près de 20 ans sur notre Église et qui y a fait tant de bien et qui a été outragé.